complexe, souvent encore tabou. On s'intéresse au suicide ce matin dans Format 3. Un acte qui pose beaucoup de questions. Que se passe-t-il dans la tête d'une personne qui commet un suicide? Pourquoi cette personne en est-elle arrivée à cette issue?
Comment reconnaître les signes? Comment agir si l'on est en face d'une personne qui est à bout? Nous recevons deux invités ce matin pour répondre à ces questions.
Christine Donzé et Francine Richon, vous êtes respectivement présidente et coordinatrice de l'association Résiste Interjurassienne. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Format 3. On se demande parfois si le suicide est prévisible, s'il y a réellement des signes. On dit qu'une personne qui se suicide ne laissait parfois pas soupçonner une telle issue.
Alors, on estime que 8 personnes qui se suicident donnent des signes précurseurs de leurs intentions. C'est quand même beaucoup.
8 sur 10.
Mmh. 8 sur 10. Mais malheureusement, ces signes, ils sont souvent interprétés une fois que le geste a été posé. C'est par après qu'on relie la situation, qu'on voit des indices qui auraient pu mettre sur la voie. On voit que la personne ne va pas bien, mais on ne peut pas imaginer que ça aille jusqu'à un geste suicidaire. Et une fois que l'acte est posé et abouti, les personnes commencent à dire « Ah mais oui, il m'avait dit quelque chose qui ferait penser que... » ou « Il avait laissé ses affaires à quelqu'un » ou... il y a plein de petites interprétations après qu'on relie ensemble et qui montrent qu'effectivement, la personne a quand même laissé trace de son intention.
Là, on imagine donc que ces 8 personnes sur 10 ont un mal-être depuis plusieurs mois, pensent peut-être déjà à mettre fin à leur vie. Ça veut dire que le suicide, c'est un acte qui se prépare, ou est-ce que c'est parfois un coup, un moment, voilà, cette fois, c'est parti.
Alors, ça va peut-être un peu différer selon l'âge. On sait que les jeunes, surtout les jeunes garçons, vont bien sûr avoir lors d'un événement un peu plus pénible, vont avoir des réactions beaucoup plus rapides. Chez un adulte, la plupart du temps, c'est vrai, c'est quelque chose qui se prépare. C'est une situation de crise, une situation où la personne va effectivement en arriver à la fin à trouver plus qu'un seul moyen, et c'est d'élaborer un plan.
Alors, vous le disiez, 8 personnes sur 10, après coup, on se rend compte qu'elles donnaient des signes de mal-être, qu'elles étaient peut-être en train de ruminer cet acte funeste. Mais il y a des gens qui le disent, je vais me suicider, qui donnent des signes très clairs. Comment on réagit quand autour de nous, on a des gens qui visiblement vont mal et puis disent, je vais mal, je veux en finir?
Je crois qu'il faut ne pas avoir peur d'entrer directement dans la situation. Moi, quand j'entends des personnes qui me disent « mais je ne vais pas bien suite à un deuil, suite à un problème de chômage ou une rupture conjugale et tout », je dis « mais est-ce que parfois vous pensez au suicide ?» Et c'est là que la personne se sent reconnue dans sa souffrance et qu'elle dit « ah, enfin quelqu'un comprend que je souffre énormément. » Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre vie? Qu'est-ce qui pourrait vous soulager pour souffrir moins et mettre à distance l'idée du suicide? Et j'observe souvent que quand on fait ces petits espaces où la personne peut exprimer ce qu'elle ressent, parler de son mal-être, ça met à distance le plan qui était peut-être en train de s'élaborer. Les choses se jouent vraiment des fois sur un espace de temps très, très, très court. Hein. Effectivement, une personne peut ruminer, mais c'est justement en fonction de la fréquence de cet état de rumination qu'on peut déceler et puis estimer plutôt l'urgence suicidaire.
On dit parfois qu'il y a des actes de suicide manqués qui sont en fait un appel au secours.
Ben oui, effectivement, je pense que quand
mais
on parle
sont
de tentatives...
volontairement, il y a des tentatives qui sont manquées, donc
oui, absolument.
Ça aussi c'est élaboré en fait.
Absolument, pour dire mais occupez-vous de moi, vous voyez bien, la personne n'a pas vraiment envie de mourir, mais elle a envie de vivre différemment. Et ça c'est, oui c'est ce qu'on peut dire par rapport aux tentatives.
Et particulièrement chez les jeunes, on sait qu'une tentative de fugue, ça vaut la peine de poser la question.
La tentative de fugue serait un premier signe, par exemple.
Un des premiers signes. Les jeunes disent facilement « je me casse », je me taille ». C'est une expression qui dit bien ce que ça veut dire.
Je n'en veux plus. Je n'en peux plus.
Oui, et lorsqu'un jeune en est à quitter la maison sans rien dire, au retour, c'est de lui dire « tu voulais te suicider » et d'oser dire ce nom, ça lui fait comprendre qu'on a compris qu'il était dans une situation où il était vraiment au pied du mur, où il avait besoin d'être accompagné. Mmh. Particulièrement un jeune.
Vous ne le dites pas par hasard, Francine Richon, parce que vous travaillez beaucoup avec les écoles.
Oui, alors j'étais médiatrice scolaire dans ma vie professionnelle, et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai su qu'une tentative de fugue, il y a d'autres signes que bien sûr on peut voir, qui sont le fait de s'auto-scarifier, hein, de se blesser. Un jeune homme qui shoot dans un mur à se casser un pied, c'est sûr que c'est un signe où ça vaut la peine de dire tu n'en peux plus, n'est-ce pas?
Donc dire les choses, pas avoir oui. peur de dire le mot suicide.
Exactement.
C'est parce que c'est un mot qui fait peur, évidemment. Faut pas avoir peur de ce mot-là. Et puis même avec les personnes qu'on sent fragiles et peut-être sur la voie d'élaborer un plan, il faut oser le mot.
Oser le mot, clairement.
Oui. La grande peur est d'inciter. Et on n'incite pas du tout en parlant du suicide parce qu'on fait comprendre à la personne que quand on n'en peut plus, c'est quelque chose d'humain. Et qu'on comprend en tant qu'humain qu'à un moment donné, face à une situation trop difficile, on n'en peut plus. Et qu'on a besoin des autres. C'est ça qu'on rappelle quand on libère la parole chez quelqu'un, quand on ouvre le dialogue. C'est de lui dire il y a des choses qu'on n'arrive pas à les régler tout seul. On est des humains.
Est-ce que le suicide est un acte qui pourrait être fait, entre parenthèses, par tout le monde? Ou est-ce qu'il y a, alors entre parenthèses, toujours des forces de caractère qui font que telle personne aurait plus tendance à le faire et une autre peut-être moins?
Il y a des groupes à risque, hein, c'est sûr. Les personnes qui ont déjà des troubles psychiques, des personnes qui sont en dépression, des personnes qui sont au chômage. Vraiment, toutes les ruptures de vie, finalement, peuvent entraîner dans une crise. Et je crois qu'on peut dire que nul n'est à l'abri. On sait que traverser la vie, c'est aussi être confronté à toutes sortes d'épreuves. Et puis quand une épreuve se rajoute peut-être à une autre, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et à un moment donné, toutes les solutions qu'on pensait avoir, on n'est plus capable de les activer, de les mettre en forme. On n'a plus envie d'aller faire du sport, on n'a plus envie de rencontrer des amis. On renonce à tout ce qui faisait auparavant notre coffre à outils pour faire face aux éléments de la vie, aux événements différents. Et on voit de plus en plus cette idée de suicide. J'ai toujours dans ma tête cette image d'un entonnoir. Au départ, c'est très large parce qu'on a beaucoup de pistes. Et puis, plus on s'enfonce dans la crise et dans la dépression aussi, moins on les trouve, ces solutions, et il y en a une qui émerge de plus et de plus en plus, c'est le suicide. Et quand on ne voit plus que ça, c'est ce moment charnière où la personne établit à ce moment-là un plan. Et elle décide comment je vais me suicider, où je vais me suicider et quand je vais le faire. On appelle ça le coq. C'est facile à retenir. Et je crois qu'il faut oser poser aux personnes, mais est-ce que tu penses au suicide souvent? À quel rythme? C'est plusieurs fois par jour? C'est plusieurs fois dans la semaine? C'est une fois de temps en temps? Ça permet d'évaluer justement l'urgence suicidaire et en fonction de ça, d'avoir une action différente.
Jusqu'à 9h, format A3.
Nous accueillons ce matin Francine Richon et Christine Donzé, qui présentent l'association Résiste, active dans la prévention du suicide pour le canton du Jura et le Jura bernois.
L'association qui existe depuis 2004, alors votre but est évidemment une diminution des tentatives de suicide. Vous mettez en place des groupes de parole, vous organisez également des formations à l'intention des professionnels. Il y a l'édition de brochures, prévenir le suicide. Il y en a trois différentes. On en parlera également tout à l'heure. Il y a un rôle de prévention et d'accompagnement également.
Oui, c'est important d'accompagner soit une personne en souffrance, soit les proches qui voient que quelqu'un de leur entourage ne va pas bien. Parce qu'il faut se rappeler qu'un suicide, c'est 7 personnes qui sont impactées, donc des très très proches, ça représente 7 personnes, et 26 personnes endeuillées lorsqu'il y a un suicide abouti. Donc ça représente quand même beaucoup de monde qui souffre de cette situation, et on sait que la mort déjà est un passage difficile à traverser, mais la mort par suicide l'est encore plus. Parce qu'il y a,
c'est une violence.
C'est une violence, une très grande violence, parce qu'il y a toutes ces questions qui restent en suspens, qui n'ont pas eu de réponse, et qui arrivent après aux personnes de l'entourage en disant beaucoup de culpabilité, mais pourquoi j'ai pas vu, j'ai pas perçu ça, si j'avais su, j'aurais, etc. Et puis, tout ce qu'on n'a pas pu encore finaliser avec la personne, qui reste en plan, il y a un inachevé qui est très lourd à porter. Et puis après, il peut y avoir tous les impacts d'avoir découvert la personne, si elle s'est tirer
une balle, si voilà, elle s'est ouvert les veines ou sous le train, c'est toujours des visions qui sont très très dures. Quelqu'un qui découvre une pendaison, c'est horrible. Et après, il reste des ancrages auditifs, sensoriels, kinesthésiques, qui habitent les personnes souvent pendant très longtemps.
Alors, on comprend bien le sentiment de culpabilité que les proches peuvent ressentir, évidemment. Ces proches, est-ce qu'on peut donner des signaux d'alarme qui sont valables tant pour les jeunes que pour les plus âgés, en disant, ben voilà, s'il y a ces trois signaux d'alarme, il faut intervenir?
Voilà, alors c'est un peu le but de nos brochures, c'est d'abord de donner une bonne information pour apprendre aux proches ce qu'il peut faire, et puis peut-être à le rassurer quant à ses limites. Un proche peut ouvrir le dialogue, peut dire « Écoute, je vois bien que tu ne vas pas bien. Ça fait quelques semaines que tu me dis que tu dors plus, je vois que tu es triste, tu pleures souvent. » C'est peut-être ça la limite d'un proche. Après, eh bien, c'est peut-être d'aider les professionnels à voir un petit peu mieux. J'étais moi-même dans le domaine de l'école. Un enseignant voit bien un jeune qui n'a pas dormi parce qu'il s'endort sur son pupitre. On voit bien qu'il n'arrive plus à apprendre. On peut être d'accord de lire les signes. C'est le but de nos brochures, c'est d'informer, c'est de rassurer aussi sur qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut faire. Après, bien sûr, on va essayer d'évaluer jusqu'où on peut aller. Parce que je dirais qu'à partir d'un certain stade, quand quelqu'un est en crise, il faut se préparer à oser non seulement proposer de l'aide, mais peut-être intervenir, c'est-à-dire faire venir l'ambulance, oser amener la personne à l'hôpital parce qu'elle a besoin d'être momentanément protégée et prise en charge par des professionnels alors de la santé mentale.
On a parlé des jeunes, beaucoup. On a parlé des personnes fragiles, qui ont une santé mentale fragile. Le suicide chez les personnes âgées, c'est aussi une réalité aujourd'hui.
Bien sûr, c'en est une et qui prend de plus en plus d'ampleur parce que c'est le groupe de personnes qui, maintenant, dans les statistiques, c'est le plus fort taux de personnes, les personnes âgées. Parce qu'effectivement, c'est pas facile de quitter son chez-soi, d'avoir perdu plein de personnes autour de soi parce qu'on vieillit longtemps et puis qu'on assiste au décès de tous ses proches, et d'aller en EMS, de se trouver là dans un contexte qui ne nous correspond peut-être pas vraiment. Il y a des personnes qui ont une lassitude de vivre et qui ont envie d'en finir. Donc soit elles refusent de prendre leurs médicaments, soit elles se laissent aller, elles se défenestrent aussi parfois. Heureusement maintenant, on parle aussi du suicide des âgés, et je crois qu'on peut dire que vraiment toutes les tranches d'âge peuvent être concernées par le suicide.
La solitude, c'est souvent quelque chose qui amène au suicide.
Alors absolument. Absolument.
Ça peut être chez les personnes âgées, mais ça peut être
chez les plus jeunes aussi.
On a parfois l'exemple de grands patrons. On a l'impression que tout va bien. Ils sont assis sur un fauteuil en cuir. Pourtant, ils souffrent de cette solitude qui parfois peut les amener au suicide.
Absolument, ils ont tellement de pression. Ils ont d'énormes pressions professionnelles, des défis à remplir continuellement, un programme très chargé qui fait qu'ils ne pensent pas vraiment à eux, et puis que de plus en plus le stress gagne du terrain et qu'ils en arrivent, on a vu même plusieurs exemples dans la presse, à poser un geste suicidaire qu'on peut dire mais pourquoi ? Mais quand on relit là aussi, on peut comprendre que la tasse était pleine.